Chers amis, bienvenue à cette troisième et dernière partie de la série portant le titre « La réincarnation, une grâce de la vie, où mène le voyage de mon âme ?» Dans cette série d'émissions, nous découvrons ensemble le contenu de différents enseignements donnés par la prophétesse instructrice et messagère de Dieu à notre époque. Aujourd'hui, dans la dernière partie de cette lecture, nous allons découvrir, entre autres, la réponse à la question « Comment sortir de la roue de la réincarnation ?» Aussi, nous apprendrons ce que le Christ a réellement accompli par son acte de rédemption et recevrons par ailleurs la réponse à cette question importante « Le Christ a-t-il simplement effacé nos péchés ?» Une autre question fondamentale sera ici traitée, celle de savoir si la damnation éternelle existe vraiment. Et si la vie est éternelle, donc que la mort n'existe pas, est-ce que tous nous retournerons un jour à notre origine divine, dans notre patrie céleste, auprès de Dieu, notre Père éternel?
Nous commençons par un passage dont le titre est justement « Comment sortir de la roue de la réincarnation ?» Comment sortir de ce cycle que forment la mort, la naissance, le séjour dans le royaume des âmes, puis à nouveau la naissance, la mort? Est-ce sans fin? Non. Notre Père éternel ne nous a-t-il pas donné les commandements à travers Moïse? Nous pouvons y mesurer nos pensées et tout notre comportement. Sont-ils en accord avec les commandements? Puis Jésus de Nazareth, le Christ, est venu sur terre et nous a offert la force de la rédemption. À travers sa vie et son enseignement, il nous a appris que notre Père nous aime, afin que nous développions l'amour qui est notre nature véritable. Il nous a enseigné le sermon sur la montagne, qui nous donne une ligne de conduite idéale pour nos pensées et notre vie quotidienne. Les 10 commandements et l'enseignement de Jésus, le Christ, nous transmettent vraiment des règles de vie précieuses. Si nous suivons pas à pas ces indications, notre âme se purifie. Dans un premier temps, la voix de notre conscience se manifeste et nous nous disons par exemple « J'agis constamment contre ce que m'a enseigné le Père éternel, contre ses commandements, mais aussi contre les enseignements donnés par Jésus, le Christ. Je charge ainsi mon âme, qui m'appelle en disant « Libère-moi ». Si de tout notre cœur, nous souhaitons vraiment devenir libres et saisir la main de Jésus, du Christ, pour retourner à la maison du Père, nous parvenons de plus en plus au repentir. Nous demandons alors pardon à notre prochain à qui nous avons fait du tort. Si nous avons eu des pensées négatives, des pensées de haine et d'hostilité, nous lui demandons pardon de la même manière, c'est-à-dire en pensée. Si nous avons agi contre la vie des animaux et des plantes, contre la nature en général, nous avons le devoir de demander pardon au Créateur, car ce sont ses créatures, et il nous pardonnera. Si nous ne reproduisons plus de tels comportements, notre âme se purifie alors, et nous parvenons progressivement à accomplir certains aspects des lois de la vie, par exemple des 10 commandements.
Les 10 commandements et le sermon sur la montagne contiennent de nombreux aspects. Alors par quoi commencer ? Nous pourrions prendre comme orientation ce principe de base simple. Ce que nous ne souhaitons pas subir nous-mêmes, nous ne devrions pas l'infliger aux autres, c'est-à-dire ni à notre prochain, ni aux animaux, ni au règne de la nature. Si nous nous comportons selon ce principe, notre âme se libère progressivement de ses charges. La matrice que nous avons peut-être déjà créée dans le cosmos se dissout progressivement et nous nous rapprochons de notre but, de notre patrie véritable dans la lumière. Chacun de nous détermine finalement lui-même combien de fois il devra encore s'incarner ici-bas. À travers Gabriel, la parole prophétique de Dieu apporte des explications sur ce thème essentiel de la réincarnation. Par exemple, dans le livre « Paroles de vie pour la santé de l'âme et du corps », nous pouvons lire ce qui suit. Une âme peut s'incarner et parcourir en habit humain de nombreuses vies terrestres jusqu'à ce qu'elle soit prête à suivre le chemin spirituel de la purification. Par la mise en ordre de son moi inférieur, par des prises de conscience, la mise en pratique des lois divines et l'acceptation de mon acte de rédemption, elle fait alors grandir la lumière rédemptrice qui agit en elle. Chaque âme et chaque être humain devront tôt ou tard, dans cette vie terrestre ou dans d'autres, ou en tant qu'âme dans les aires de purification, purifier leur âme afin de redevenir consciemment à l'image du Père éternel.
Le passage suivant nous donne davantage d'explications à ce sujet. Autrement dit, dès que l'âme devient plus lumineuse et n'aspire plus à se réincarner, à retourner sur terre, elle peut également se purifier progressivement dans les aires de purification qui sont à la disposition des âmes dans l'au-delà, et ainsi retourner pas à pas à la maison du Père céleste, à son existence primordiale et éternelle, dans sa patrie d'origine qui est éternelle. On reconnaît là aussi la main tendue par Dieu. Tu n'es pas obligé de retourner à l'incarnation, à moins que tu te sentes attiré vers la terre. Si l'âme est omnubilée par le désir de retourner sur terre, elle se réincarnera. Par contre, si elle a déjà traversé un certain processus de purification, donc si elle est plus lumineuse, elle ne ressentira plus cette attraction. Elle se dira alors qu'elle peut également continuer à se purifier dans les aires de purification. Il est toutefois à noter que ce processus y est plus difficile et plus long que sur la terre, tout particulièrement lorsque l'âme est très chargée. Ainsi, beaucoup d'âmes cherchent à se réincarner. En effet, dans l'au-delà, une âme doit subir et endurer les souffrances qu'elle a causées à ses prochains sur la terre. Sous forme d'image, elle ressent la manière dont elle a, par exemple, traité son prochain, comment elle a détourné celui-ci de son propre chemin, comment elle l'a manipulé, influencé et contraint à certaines choses. Peut-être même l'a-t-elle incité au meurtre. C'est pourquoi Jésus, le Christ, nous enseigne de faire la paix.
Nous poursuivons la lecture de l'enseignement. Lorsque de telles charges sont actives en elle, l'âme est à nouveau attirée vers la terre. Mais si au cours de son incarnation, sa vie est en majeure partie ancrée dans le Christ, elle chemine alors sur terre vers la maison du Père. Elle ne ressent plus les souffrances qu'elle devait endurer en tant qu'âme. Grâce à l'énergie du jour, elle a reconnu ce qu'elle avait à mettre en ordre et l'a fait à temps, avant que la souffrance, voire la maladie, s'abatte sur l'être humain. De cette manière, l'âme se purifie et se tourne vers les cieux, vers sa patrie véritable, son origine. Reconnaissons ici une nouvelle fois la grâce de Dieu. À travers l'énergie du jour, nous recevons des impulsions, parfois pendant des mois ou des années, avant que la souffrance ou la maladie se manifeste. Nous recevons l'impulsion de nous repentir d'aspects négatifs et de les mettre en ordre pour qu'ils soient dissous à temps dans notre âme et que nous évitions ainsi un coup du destin. Nous pouvons donc les mettre en ordre avant qu'ils ne se manifestent à l'extérieur.
La réincarnation est un enseignement rempli d'espoir, optimiste et réconfortant. Peut-on lire dans le texte de cet enseignement qui poursuit en expliquant qu'Origène l'enseignait déjà au IIIe siècle. Mais au VIe siècle, lors du concile de Constantinople, Origène sera frappé d'anathème, c'est-à-dire condamné par l'Église. Cette condamnation concerna non seulement son enseignement proclamant la préexistence de l'âme, mais également son affirmation optimiste qu'un jour, tout finira bien, que tout retournera à Dieu. En effet, afin de pouvoir brandir la menace de l'enfer, l'Église condamna également cet aspect. C'est donc à cette époque que fut prise ces décisions réellement diaboliques et lourde de conséquences. Mais Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il a toujours envoyé ses messagers de lumière pour enseigner la vérité libératrice. Et aujourd'hui, comme cela est exposé dans le texte, l'Esprit de Dieu se révèle et apprend à l'humanité que l'enseignement de Jésus de Nazareth est celui de la rédemption, un enseignement qui, mise en pratique, libère de tout mal, c'est-à-dire de tout aspect de nature humaine, et qui conduit à une pensée et une vie dans l'Esprit de Dieu. Il nous dit que tout retournera à Dieu, purifié, nettoyé, empli de lumière et de force, tel que Dieu l'a créé.
Quel est le rôle du Christ ? Dans tous ces événements, qu'a-t-il apporté par son acte de rédemption? Pourquoi Jésus, le Christ, est-il mort? Voici les explications données dans l'enseignement. Grâce à son acte de rédemption, le processus de dissolution de toutes les formes de vie souhaitées par les êtres de la chute, donc les êtres déchus, a été stoppé. Il s'agit là d'un message absolument essentiel dont l'humanité a pu à nouveau prendre connaissance grâce à la prophétie divine donnée à notre époque. Le Christ n'est pas mort en agneau sacrifié pour apaiser un Dieu colérique tel que le présentent les Églises. Resté fidèle à sa mission, à son Père éternel, il est mort du fait que les gens de son époque n'ont pas accepté son message. C'est pour empêcher que l'humanité ne tombe plus bas encore que Jésus, le Christ, offrit son amour à toutes les âmes et à tous les êtres humains sous la forme de ce qui est appelé l'étincelle rédemptrice. Par cet acte, il a donné à chaque âme, incarnée ou non, la force de retourner en toute liberté vers Dieu. Le Christ n'a donc pas effacé comme par enchantement toutes nos fautes, mais grâce à sa force rédemptrice, il nous a donné la possibilité de devenir nous-mêmes actifs pour nous libérer de nos fautes en nous tournant vers lui. C'est donc à nous de faire quelque chose, car chaque âme retournera un jour dans la patrie céleste. Il n'y a pas de damnation éternelle.
Et quel était l'objectif des êtres divins qui s'étaient opposés à Dieu? Là aussi, le texte de l'enseignement nous donne de profondes connaissances. Ils avaient pour but la dissolution de toutes les formes de vie créées par Dieu, c'est-à-dire de tous les êtres divins, de la nature céleste et des planètes de la patrie éternelle où vivent les êtres spirituels. Les êtres opposés à Dieu voulaient également supprimer la dualité. La dualité est l'union de deux êtres spirituels qui vivent en Dieu et qui donnent naissance à de nouveaux êtres spirituels divins qui, à leur tour, peuplent le royaume de Dieu et, dans une évolution permanente, pourvoient à sa croissance en créant et concevant au service du royaume de Dieu la patrie céleste. Certains êtres divins voulurent faire disparaître tout cela. Cet ordre est la loi de l'univers divin. Ils voulaient que tout ce qui a été créé réintègre le courant primordial à partir duquel l'Éternel créa les formes spirituelles et divines pures qui sont la manifestation de la loi éternelle de l'amour divin. Pourquoi ce souhait ? Parce que être des enfants de Dieu ne leur suffisait pas. Ils voulaient eux-mêmes être Dieu omniprésent et créateur.
On pourrait donc dire que le péché originel, c'est en fait le péché de la chute, la volonté de dissoudre toutes les formes créées, ce qui aurait eu lieu si Jésus le Christ ne l'avait pas empêché. Il prit sur lui ce péché originel en utilisant une part de son héritage spirituel divin, c'est-à-dire en déposant en chaque âme son étincelle rédemptrice, la lumière de la patrie éternelle, l'enveloppant et la protégeant ainsi de la dissolution. Par cet acte, le Christ a assuré la protection de la patrie éternelle, de la maison du Père éternel, et a offert à chaque âme l'assurance de pouvoir redevenir l'être divin qu'elle était à l'origine, en cheminant vers l'intérieur. Depuis le « tout est accompli » prononcé par le Christ de Dieu sur le mont Golgotha, l'adversaire de Dieu, le démon, a perdu la partie de son jeu ignoble. Le Christ a été le sauveur et il l'est toujours aujourd'hui. Depuis son acte de rédemption, les êtres divins et toutes les formes d'existence céleste, qui sont tous issus de l'amour de Dieu, ne peuvent plus être dissous.
On entend souvent dire que le Christ aurait pris sur lui tous nos péchés. Qu'est-ce que cela signifie ? Écoutons la réponse qui nous est donnée par la sagesse divine. Le Christ ne nous a pas tout simplement pris nos péchés. Cependant, il nous aide à les reconnaître, à nous en repentir, à les mettre en ordre et à ne plus les répéter. Il aide chacun de nous en enseignant sans relâche à respecter les commandements de Dieu, à comprendre le sens profond de ses enseignements contenus dans le Sermon sur la montagne et à les mettre en pratique afin de nous libérer de nos charges, de nous purifier et de pouvoir retrouver notre origine, la patrie éternelle. Suivre le Christ en pensée, en parole et en acte, se tourner vers lui, l'esprit intérieur, dans la prière et communiquer ainsi avec lui, c'est le christianisme intérieur, ce qui signifie mettre à profit les journées dans le sens des enseignements de l'esprit éternel, honorer Dieu en faisant sa volonté.
La prière de l'unité, le Notre Père, commence par ces paroles. Notre Père, toi qui es aux cieux, ton nom est sanctifié, ton règne vient et ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Ces paroles absolues de Jésus le Christ nous disent « Tu retourneras à Dieu par l'action du Père éternel, par son Fils, par la rédemption. » Nous retournerons au Père céleste dont nous sommes issus, car en chaque âme se trouve un être de lumière. C'est lui qui retourne à la maison du Père, car, en effet, Dieu n'a pas créé les âmes. Il a créé l'être de lumière qui se trouve au plus profond de l'âme. Plus l'âme se purifie, plus cet être lumineux apparaît. Chacun de nous est le temple de Dieu, car Dieu habite en nous. En accomplissant toujours plus la volonté de Dieu, c'est-à-dire en vivant selon les aspects de la loi de la vie contenue dans ses 10 commandements, ainsi que dans les enseignements de Jésus, le Christ, nous nous rapprochons de plus en plus de notre Père céleste. Nous cheminons à la main de notre Rédempteur avec davantage de conséquences et sortons ainsi de la roue de la réincarnation pour nous diriger vers le royaume de la lumière, vers Dieu, vers celui qui nous a contemplés et créés depuis l'origine de l'éternité. Quelle consolation de savoir qu'à l'issue de notre vie terrestre, dans la mesure où nous avons suivi les commandements et les aspects de la loi de Dieu, notre âme peut prendre le chemin ramenant à la maison, à la patrie éternelle. Rappelons-nous les paroles du Christ à ce propos. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Lorsque je serai allé vous la préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. » Fin de citation. Les demeures de notre patrie éternelle sont donc libres et nos familles spirituelles nous attendent. Nous leur manquons. Il leur tarde de retrouver la grande unité cosmique dans la maison du Père céleste. Et la maison du Père, c'est le royaume infiniment grand de Dieu. Cette force divine rayonne vers nous. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé des prophètes à de nombreuses reprises pour enseigner aux êtres humains « Rebroussez chemin, tournez-vous vers Dieu, Dieu est amour. Le Père vous aime, il aime l'enfant qu'il a créé. »
Si Dieu nous punissait d'une manière ou d'une autre, voire nous vouait à la damnation éternelle, ne serait-il pas d'une indicible cruauté ? Bien au contraire, comme nous venons de l'entendre, Dieu, notre Père, nous aime. Nous sommes les seuls à pouvoir, en quelque sorte, nous damner nous-mêmes. Et de quelle façon ? En nous enfonçant dans les domaines sombres de l'existence terrestre, loin de Dieu, en raison de nos pensées, paroles et actes sombres, contraire à la loi de la vie, à notre héritage divin, véritable, qui est amour désintéressé. Cependant, même ces ténèbres, dont nous sommes nous-mêmes responsables, ne sont pas éternelles, car la damnation éternelle n'existe pas. Il est possible que nous vivions longtemps dans les ténèbres, si nous nous y complaisons, mais Dieu est lumière. La lumière est amour et l'amour est chaleur. C'est Dieu, notre Père, le Dieu Père-Mère. Il nous aime et nous appelle. Il nous a envoyé son Fils, le corrigeant des cieux, pour qu'il nous transmette une partie de son héritage divin, la force partielle issue de la force primordiale, un soutien sur notre chemin de retour vers notre patrie, vers l'éternité. Ce soutien, c'est le Christ, notre Rédempteur, la lumière de la rédemption en nous. Beaucoup de personnes ont peur de la mort. Pourquoi ? En fin de compte, ce n'est pas tant la mort en soi qui les effraie, mais inconsciemment, elles ont peur de leur propre péché. En effet, lorsque l'âme se retire progressivement du corps qui s'éteint, certaines personnes prennent conscience de ce qu'elles ont causé par leur comportement allant à l'encontre de leur vie véritable, de leur héritage spirituel. Et c'est de là que vient la peur de la mort.
Cet enseignement se conclut sur un appel du cœur. Nous souhaitons dire à tous nos prochains qui sont nos frères et nos sœurs qu'il n'est pas possible de trouver soutien, sécurité ou aide à l'extérieur. Et encore moins dans les églises institutionnelles qui se prétendent chrétiennes. D'où cet appel de la sagesse divine. Avez-vous vraiment besoin des édifices faits de main d'homme, qu'on appelle église ? Car vous êtes vous-même le temple de Dieu. Et puisque la lumière de Dieu brille en vous, puisqu'en vous se trouve l'être divin et que vous êtes un héritier du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Priez et accomplir le contenu de vos prières. Alors, ce qui est inscrit dans votre cœur se réalisera. Vous êtes vie éternelle, contemplé par le Père éternel qui vous aime et vous appelle, lui, votre Père qui a envoyé son Fils, notre frère divin, afin que nous apprenions à comprendre que la force divine est en nous et que chacun de nous est le temple de Dieu. Au plus profond de notre âme se trouve un grand être divin. Plus nous nous purifions, plus il nous sera facile de déposer notre enveloppe physique, notre corps, le moment venu, car nous ressentirons que le Christ nous prend par la main et nous reconduit pas à pas à la maison du Père éternel. Nous n'aurons alors plus à nous incarner. Nous cheminerons avec détermination vers le royaume de Dieu. Chers amis, c'est là le message unique et plein d'espoir que Dieu révèle depuis plus de 50 ans à travers la sagesse divine et qui est à la disposition de tous ceux qui cherchent la vérité. Chers amis, nous vous souhaitons le meilleur et vous disons au revoir avec une chaleureuse salutation en Dieu.